À voix nue. Cette semaine, Mathieu Conquet rencontre Jean-Michel Jarre. Ce soir, du GRM à quelques synthétiseurs.
Jean-Michel Jarre, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes musicien, compositeur, connu mondialement depuis la fin des années 70 et le célèbre Oxygène, qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde. On vous identifie souvent comme un pionnier du synthétiseur, en tout cas parmi ceux qui l'ont fait connaître dans le monde entier. Et j'aimerais qu'on parle ce soir de votre rapport à la technique, d'abord au synthétiseur, mais aussi dans ce qu'elle a appliqué par ailleurs. Et puis on parlera peut-être aussi de votre côté entrepreneur, puisque vous êtes aussi à la tête de Jarre Technologies. On l'a évoqué hier en fin d'épisode, au moment de mai 68, vous avez rejoint le GRM, le groupe de recherche musicale, et donc la personnalité et le travail de Pierre Schaeffer. Comment est-ce qu'on rentre au GRM et quel genre d'examen vous y fait passer, Jean-Michel Jarre?
Alors, le GRM, ça a été, je pense, la meilleure école du monde pour les nouvelles musiques, la nouvelle manière d'approcher le son. Et en même temps, c'est les Shadocks. C'est les deux. C'est-à-dire qu'il y a le côté totalement surréaliste et en même temps un côté extrêmement profond et presque dogmatique et extrêmement intellectuel. Et Schaeffer incarnait tout ça. Et donc, il se trouve que dans le groupe dont je parlais hier, les Dustbins, qui était le batteur, était qui s'appelait Stanislas Witold, était le fils de Jean Witold, qui travaillait d'ailleurs à France Culture et qui était un grand musicologue. Et lui me dit, tu sais, il se passe un truc à l'époque de l'ORTF, il se passe un truc, il y a service de la recherche, il y a un gars qui dirige ça, c'est incroyable, puisqu'ils font de la musique de manière complètement différente. Comme moi, je trafiquais déjà beaucoup les sons dans le groupe, à faire passer les sons à l'envers sur un petit magnétophone de piste, etc., et de trafiquer les sons, il me dit, c'est un truc qui devrait t'intéresser. Et donc j'y vais, et je tombe effectivement sur les gens du groupe de recherche musicale, pour y rentrer. Et donc je suis fasciné par cette manière complètement différente d'appréhender la musique, c'est-à-dire que pour la première fois, il faut comprendre qu'avant Schaeffer, en gros, la musique, c'est une musique, surtout en Europe et en Occident, c'est une musique qu'on crée avec un papier et un crayon, et on écrit de la musique, finalement, de manière assez cérébrale, assez abstraite, et on fait jouer cette musique à des musiciens, ou on la joue soi-même. Et là, je tombe sur quelqu'un, et donc des gens qui, et notamment Schaeffer, qui dit non, la musique, c'est pas seulement des notes basées sur le solfège, c'est en fait du son. Et en fait, on peut sortir dehors avec un micro et avec un magnétophone, enregistrer le son de la pluie, de la rue, du vent, etc., revenir en studio et en faire de la musique. Et ça, c'est quelque chose qui me fascine complètement et qui va changer ma vie, parce que j'étais très intéressé, très impliqué dans la peinture. Je faisais pas mal de peinture à l'époque, de peinture non figurative, très influencée par l'abstraction lyrique, par Soulages, par Hartung, par Pollock, etc. Et donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et je trouve instantanément ce lien avec cette espèce de côté, en tant que Lyonnais, cuisinier du son. C'est-à-dire le fait de pouvoir, de manière au fond très organique et pas du tout froide, de pouvoir pétrir les fréquences, les formes d'ondes, les percussions, les sons filés, les sons, toutes sortes de sons et toutes sortes de vocabulaire élaboré que Schaeffer et son équipe va mettre au point à travers un livre fondamental qui s'appelle « Le solfège des objets musicaux ». Et donc, je veux rentrer dans cet endroit, et il y a un concours, puisqu'il y a peu de gens qui peuvent rentrer au GRM à cause des moyens qu'ils avaient. Et donc, ils prennent que 4 étudiants par an, et il y a genre 200 personnes qui se présentent. Donc, le concours, c'est qu'en fait, il faut rentrer on vous enferme dans 4 heures dans un petit studio, une cabine, et vous choisissez avec un magnétophone, un micro, de la bande magnétique, du scotch, un ciseau, des ciseaux, et vous avez droit d'aller dans notre studio et prendre un instrument, ou ce que vous voulez, et au bout de 4 heures, il faut faire quelque chose avec ça. Et donc, je me souviens que j'ai pris à l'époque ce qu'on appelle un woodblock, hein, l'instrument de percussion en bois, Et en fait, j'ai fait un morceau d'une minute, mais dans lequel il devait y avoir, 200 montages, avec des montages de 1 cm à peu près, qui étaient tout liés avec un son de percussion du woodblock que j'avais enregistré et que j'avais ralenti, mis à l'envers, que je l'avais fait subir tout ce qu'on pouvait faire subir avec un magnétophone en faisant varier la vitesse, en faisant etc. Et donc voilà, j'ai fait une minute de quelque chose de complètement extrême. Et en fait, bon, bah, ça a dû leur plaire puisque j'ai été un des quatre à être pris pour l'année. J'y suis resté à peu près 3 ans. Et la première année, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes stagiaire, mais que la deuxième année, vous formez les stagiaires de l'année d'après. Donc il y avait cette espèce de côté passage de relais que j'ai bien aimé. Et puis, j'ai appris beaucoup de choses. C'est là où j'ai appris vraiment les fondamentaux de la musique électroacoustique et de ce qu'allait devenir la musique la plus populaire au XXIe siècle. Et j'étais très très vite, à cette époque-là, convaincu que c'était la manière dont on allait faire de la musique au siècle prochain. J'étais absolument convaincu. Même si à l'époque on était considéré comme une poignée de fous, une poignée de Shadok en réalité.
Est-ce que Jean-Michel Jarre, cette façon d'apprendre et de faire au JRM, va avoir un impact aussi sur la façon que vous avez de considérer la musique? Beaucoup en Europe, et encore aujourd'hui, considèrent qu'il y a des hiérarchies dans la musique, que la musique classique ne serait pas à mettre au même niveau que le jazz ou que les musiques folkloriques de l'hémisphère sud.
Oui, il y a une forme de racisme intellectuel qui a toujours eu, qui est d'ailleurs très européen et je dirais très français, plus que dans les pays anglo-saxons, et surtout à l'époque. Bon, maintenant, les choses ont considérablement changé, mais il faut comprendre qu'à l'époque, la musique dite contemporaine, c'est-à-dire la musique sérieuse, était absolument radicale et extrémiste. Elle exerçait une sorte de terrorisme intellectuel. Je me souviens de Xenakis faisant une masterclass au groupe de recherche musicale et disant finalement à nous, jeunes verts musiciens, faites attention, tout ce qui procède de l'émotion est suspect en musique ou est suspect en art. Donc ça allait aussi loin que ça avec justement une musique, des dogmes tellement sophistiqués que finalement, souvent, on avait tendance finalement à vider le travail musical de l'émotion. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai finalement assez mal vécu puisque moi, j'ai toujours considéré que l'émotion est évidemment, pour moi, non seulement un des éléments de la création, mais c'est son élément fondateur, et que l'émotion vienne à travers sa culture, à travers son manque de culture, en plus de manque de culture par rapport à qui, par rapport à quoi, tout ça, et surtout à l'époque de 68, me paraissait absolument totalement hors sujet. Et donc du coup, au bout de 2 ou 3 ans, je me suis rendu compte que des gens à l'extérieur, des groupes comme Pink Floyd, comme Soft Machine, comme des gens comme ça, finalement faisaient, expérimentaient de manière empirique et arrivaient à des résultats pratiquement plus intéressants que ce que nous faisions, nous, en laboratoire, et en même temps coupés du monde extérieur. Parce que c'était en même temps, d'une certaine manière, une secte. C'est-à-dire le fait de... On rentre dans... D'ailleurs, je parle du groupe de recherche musicale, mais c'est vrai de tous ces groupes qui, en fait, finalement... je dis ça en adorant le GRM et en ayant passé ma vie à promouvoir Schaeffer, à défendre ce qu'il a fait, qui est quelque chose de fondamental, et aussi les gens du GRM, dans lequel il y a des individualités fantastiques. Je veux dire, sur le plan du système, c'est un système qui, effectivement, n'était pas assez ouvert à la création extérieure, n'était pas assez en contact. Et donc, Schaeffer, à un moment donné, m'a dit « perds plus ton temps ». C'était le moment où lui commençait déjà à prendre du recul par rapport à ça. Il disait « de toute façon, bon, tout ça, bon, finalement, c'est pas si intéressant que ça. Moi, je préfère écouter Mozart et Bach ». Donc, il avait en même temps ce côté tout à fait provoque, mettant en question ce qu'il avait fait. Et la raison pour laquelle je suis parti, il y a deux choses. C'est la première, c'est que le Conservatoire national de musique à Paris avait l'intention d'ouvrir une classe de musique électroacoustique, mais à la condition que les gens qui veulent y rentrer puissent passer une dictée musicale comme examen. Et ça me paraissait, avec quelques autres, totalement aberrant, puisque la beauté du groupe de recherche musicale, c'était que vous aviez des philosophes, des mathématiciens, des sociologues, des gens tout à fait extraordinaires qui étaient passionnés par le son, mais avec une autre approche que celle de l'enseignement classique de la musique, et qui faisaient des choses formidables, mais qui étaient incapables de passer une dictée musicale, parce que c'était pas leur éducation. Donc je trouvais qu'il y avait un décalage total, et une trahison même par rapport à la manière dont les choses avaient été pensées dès le départ par Schaeffer. Et donc on est allé au conservatoire, et on était quelques-uns à pouvoir faire une dictée musicale, mais on a croisé les bras en signe de refus, qui était tout à fait dans l'air du temps. Et donc, du coup, après, je me suis dit, j'ai fait mon temps là, et Schaeffer lui-même m'a dit, perds pas ton temps, de toute façon, ton chemin est ailleurs, et d'aller à la rencontre du public, va expérimenter maintenant d'autres choses. Et il a eu un rôle fondamental pour moi de père spirituel, de mentor, et c'est quelqu'un à qui je dois énormément.
Et c'est au GRM, Jean-Michel Jarre, que vous avez enregistré, je crois, vos premières compositions, La Cage et Rose Machine. Vous l'enregistrez la nuit pendant que les studios ne servent pas.
En fait, on s'était fait faire un double des clés d'un des studios et on allait la nuit enregistrer pour avoir accès à des machines auxquelles on n'avait pas droit d'accéder. Mais ce que je voudrais dire par rapport à la musique contemporaine, ce qu'on appelait la musique contemporaine à cette époque, ou d'avant-garde plus exactement, la musique d'avant-garde a toujours été la musique classique, 30 ans plus tard. Quand on écoute les musiques, la musique d'avant-garde des années 60, 70, c'est une musique qui est finalement très liée à cette époque. Mais en aucun cas, elle ne représente le son et la musique du siècle suivant. Alors que finalement, on s'aperçoit que la musique électronique qui va venir de la pop et des musiques plus populaires, finalement, sont des musiques d'expérimentation à cette époque et vont devenir des musiques que je dirais pratiquement classiques au XXIe siècle. Sur le plan de la démarche.
Alors certains l'ignorent, Jean-Michel Jarre, mais l'une des premières fois qu'on a entendu et joué votre musique, c'était à l'Opéra de Paris, en octobre 1971, après que des travaux aient été faits, Chagall venait de refaire le plafond de l'opéra, et vous êtes invité, avec un autre compositeur, à composer des pièces de ballet. Je crois d'ailleurs que vous composez un pas de deux, qui s'appelle Dorian, et puis une autre pièce qui s'appelle Le Labyrinthe. Comment est-ce que votre arrivée sous les ors de l'Opéra de Paris est reçue ?
En fait, c'est tout à fait extraordinaire, c'est-à-dire qu'en sortant du GRM, une des premières commandes que je vais avoir, c'est une commande de l'Opéra de Paris. En général, c'est plutôt en fin de carrière ou en plus de carrière. Donc, j'étais encore en culotte courte. Et donc, du coup, c'était un chorégraphe qui avait fait, avec qui j'avais collaboré au Festival d'Avignon pour une petite chose avant, qui a cette commande à l'Opéra et qui dit, ben voilà ce que je veux faire. Et donc, du coup, je me souviens que je vois à l'époque Bernard Lefort et Daniel Lesur, qui étaient les patrons de l'Opéra de Paris, qui disent, ben, on est tout à fait d'accord, mais il faudrait qu'on... Et puis en plus, c'est dans l'air du temps d'expérimenter, mais il faudrait quand même qu'on entende quelque chose. Donc je me souviens que j'ai passé l'été à composer déjà ce que j'avais en tête. Je me souviens, c'était un copain qui m'avait fabriqué les enceintes, donc c'était des enceintes en aggloméré qui était c'était vraiment totalement fait à la maison. Et donc je suis arrivé avec tout ce matériel qu'on a posé dans les dorures du bureau de l'opéra, et pour une musique qui était vraiment pour le moins extrêmement expérimentale, et en fait ça leur a plu, ils ont dit d'accord, on y va. Et donc ça a été une aventure extraordinaire, parce que de pouvoir avoir l'honneur et la chance de pouvoir introduire la musique électroacoustique électronique à l'Opéra de Paris à l'occasion de sa réouverture, c'était l'époque où l'orchestre, les musiciens classiques voyaient d'un très mauvais œil, étaient très inquiets sur la technologie qui allait arriver, et en ayant peur que la technologie finalement leur mange la laine sur le dos et qu'ils perdent finalement leur travail à long terme, ce qui est évidemment pas le cas, mais on a eu des aventures où certains musiciens de l'orchestre débranchaient la sono, enfin bon, c'était assez sportif, ça s'est finalement assez bien passé, et c'est un de mes très très bons souvenirs, et c'était en même temps, il y avait deux ballets, le deuxième ballet était la création du Boléro de Ravel par Béjart, qui est pour moi un de mes plus grands souvenirs, un des plus beaux ballets de l'histoire de la chorégraphie mondiale, et donc de partager cette soirée avec une œuvre pareille était effectivement ajouté en même temps du plaisir et du privilège qu'on a eu tous à participer à cette aventure.
J'ai pas pensé à vous demander, Jean-Michel Jarre, mais à ce moment-là, vous avez 18 ans, vous êtes bon pour le service. Alors, qu'est-ce que vous faites
ah,
avec
vous connaissez cette histoire. Je vois que vous êtes très bien renseigné. En fait, c'est vrai qu'à cette époque-là, le service militaire était obligatoire et j'ai jamais eu de jugement moral par rapport au fait de faire son service ou de pas faire son service. Simplement, il y a des gens pour qui c'était une chance, pour d'autres, c'était un handicap. Dans mon cas, je savais ce que je voulais faire et j'avais notamment cette commande à l'opéra. Et si j'allais faire mon service, je passais à côté. Donc je me suis pas présenté au moment où j'ai eu cette commande sans savoir si j'allais l'avoir. Et en fait, je me souviens qu'avant que la commande arrive et après j'ai eu une dispense du ministère de la Culture de 3 mois ou de 4 mois, mais c'était trop tard, c'est-à-dire que j'avais déjà été considéré comme une sorte d'insoumis, pas une sorte d'ailleurs, un insoumis, et donc je me suis retrouvé quelques mois plus tard dans un bataillon disciplinaire, mais j'ai réussi à en sortir, parce qu'en fait j'avais une autre chose à faire après, je me suis dit je peux pas rester là, bloqué, c'est pas possible, et donc du coup j'ai réussi à ne faire que 8 jours, mais sans aucun appui. Tout le monde m'avait dit, tu verras, fais-toi faire des faux certificats avec un psychiatre, ça marche pas du tout, c'était pas du tout le cas. En fait, je leur ai fait écouter ce que je faisais. Je pense que ça les a convaincus que j'étais quelqu'un qui était sinon agoraphobe, pas vraiment à ma place là où j'étais. Je suis tombé sur quelqu'un d'assez compréhensif et très sympa, et finalement, j'ai réussi à sortir 15 jours après.
Alors parlons un peu de matériel, Jean-Michel Jarre. Les premiers synthétiseurs, les premiers outils sur lesquels vous travaillez, par exemple le VCS3 qui était fabriqué à l'époque par Peter Zinoviev à Londres. À quoi ressemble ce premier matériel? Comment est-ce qu'on l'acquiert? Comment est-ce qu'on apprend à s'en servir?
Alors, il faut bien comprendre qu'à l'époque, moi quand j'entre au service de la recherche de l'ORTF, le mot synthétiseur n'est même pas entré dans le vocabulaire de l'endroit où je travaille. C'est-à-dire que la musique électronique ou électroacoustique, en fait, au départ, et on ne le lira jamais assez, dépend des studios de radio. C'est-à-dire que Stockhausen est lié à l'histoire de la radio publique allemande, tout comme les laboratoires de la BBC avec un certain nombre de gens qui vont expérimenter la musique électroacoustique dans les laboratoires de la BBC. Et de la même manière, le Schaeffer, le groupe de recherche, les services de la recherche avec la radio publique française. Pourquoi ça? C'est parce que, pour une raison très simple, c'est qu'en fait, nos instruments sont les instruments de la radio. C'est-à-dire les instruments, c'est-à-dire les magnétophones. C'est le grand-père de celui qui nous enregistre en ce moment, ou la grand-mère peut-être. Et donc ces magnétophones de piste, les micros dont on a besoin pour enregistrer, et aussi toutes les oscillateurs, les filtres qui en fait servent techniquement à tous les procédés d'émission et de réception et de réglage des antennes. Et donc c'est ça nos instruments, nos Stradivarius, nos violons, notre matière sonore, elle vient de là. Donc c'est la raison pour laquelle la musique électroacoustique ou électronique n'aurait jamais pu se développer sans les radios publiques. Les radios publiques ont un rôle fondamental dont on ne parle pas assez. Je veux dire qu'il y a eu constamment, c'est pour ça que moi je suis un grand défenseur des radios publiques, c'est que l'innovation est toujours venue des radios publiques, jamais du secteur privé, très très peu. Maintenant, c'est en train de changer avec les technologies d'Internet, etc. Mais même aujourd'hui, l'innovation vient toujours des services publics. Et donc, du coup, quand moi, je me retrouve finalement en dehors de ce circuit, il faut que j'arrive à travailler avec des instruments. Et donc, de manière très symbolique, je vais vendre ma guitare et mon ampli. Et avec cet argent, je vais à Londres pour m'acheter le premier synthétiseur, le VCS3 dont vous parliez, qui est en fait l'équivalent des Moog, c'est-à-dire ces fameux synthés américains, mais c'est la version européenne. Alors, c'est très intéressant de parler de ça une seconde, parce que après la guerre, il y a les États-Unis qui sont donc un pays riche après la guerre, et l'Europe qui a été décimée, pas seulement sur le plan humain, mais sur le plan économique. Et donc, on va promouvoir le 110 volts aux États-Unis et le 220 volts. En Europe, pour une raison simple, c'est que si on est en 220 volts, on dépense 2 fois moins de cuivre dans les câbles. Et donc du coup, le son va s'en ressentir. C'est-à-dire que tout ce son très chaud qui font rêver les musiciens quand on écoute les enregistrements américains de l'époque, alors qu'on a un son beaucoup plus froid en Europe, vient de ça, vient du 60 Hz et du 50 Hz, entre les deux, et vient du 110 volts et du 220 volts aussi. Et donc, du coup, ce synthé est un synthé du pauvre comparé aux grosses machines américaines, mais dont on n'avait absolument pas les moyens à l'époque de pouvoir acheter un synthé comme ça. Et puis, c'était un peu avant encore que ça vienne vraiment en Europe. Et donc, ce synthé a pour moi une importance capitale parce que je vais travailler avec très très peu de moyens, avec un orgue Farfisa qui va me permettre de avec toutes sortes de pédales de guitare que je vais emprunter aux guitaristes de phasing, de flanger pour trafiquer le son, ce qui maintenant est devenu commun, mais qui à l'époque l'était pas du tout, et puis avec très peu de moyens. Et c'est avec ça finalement que je vais faire mes premières armes en dehors du GRM de compositeur.
Il y a un autre outil qui va être important dans ses débuts, Jean-Michel Jarre, c'est la RP 2600, et puis la rencontre humaine, parce que c'est quand même aussi beaucoup des rapports humains, avec quelqu'un qui s'appelle Michel Geiss. Alors Michel Geiss, c'est un ingénieur, et à l'époque, je crois qu'il faisait de la maintenance pour les studios Barclay. Qu'est-ce qu'il va vous apprendre, Michel Geiss, qui va vous être utile ensuite sur tout le reste de votre carrière?
Alors, la musique électronique est comme d'ailleurs toutes les technologies de l'époque et actuelles, il y a forcément un va-et-vient complet entre le désir de création artistique, tout simplement, et puis un certain nombre de connaissances et de réalités techniques, technologiques qu'il faut maîtriser. Même si on ne demande pas à un pianiste de savoir construire son piano, il faut quand même qu'il comprenne comment ça fonctionne. Et donc, du coup, la collaboration avec des ingénieurs ou des techniciens, des gens qui sont capables de comprendre, de concevoir les désirs d'un musicien, sont capitales. Et Michel Geiss va avoir un rôle justement très important. C'est effectivement quelqu'un qui est un super ingénieur, qui est en même temps un musicien, qui comprend très vite qu'est-ce qu'un artiste peut tirer d'instruments qui sont même pas considérés comme des instruments de musique à l'époque. Et je fais sa connaissance parce qu'il fait une démonstration justement de l'ARP 2600, qui est en fait une sorte de deuxième génération après Moog de synthé américain, qui est un synthé extraordinaire avec lequel je l'ai toujours ici et je m'en suis même servi cette nuit. Donc, qui est un synthé, ce qu'on appelle modulaire ou semi-modulaire, c'est-à-dire qu'avec où on construit ses sons à l'aide de câbles. Et donc, du coup, il faut à la fois avoir un cerveau du côté de la création et puis un cerveau un peu plus technique ou mathématique. Et donc, du coup, aussi avoir l'aide, la collaboration de gens qui maîtrisent techniquement et qui comprennent aussi comment on peut arriver à pousser les limites. Parce que finalement, ce qui est intéressant pour un artiste, c'est finalement les accidents, c'est-à-dire le fait de pirater la technologie, de pas s'en servir comme on devrait s'en servir. On sait très bien que tous les progrès dans la création, ça a été toujours d'une part, paradoxalement, c'est la technologie qui dicte les styles, mais en même temps, c'est aussi le style de quelqu'un de pouvoir pirater la technologie, d'en faire quelque chose de personnel.
Avec Michel Geiss, par exemple, plus tard, vous allez concevoir quelque chose qui s'appelle le matrice séquenceur.
Oui.
Vous pouvez nous expliquer ce que c'est? C'est spectaculaire.
Voilà. Alors, en fait, c'est tout simplement, aujourd'hui, il y a un langage qui est encore, qui date des années 80 et qui est un langage informatique qui s'appelle le MIDI, qui permet de synchroniser des instruments entre eux, c'est-à-dire de faire par exemple une séquence de notes et de pouvoir synchroniser cette séquence à une autre. À l'époque, ça n'existe pas. Donc, on a l'idée avec Michel Geiss de pouvoir faire un séquenceur, c'est-à-dire de pouvoir imaginer des séquences de notes, mais que ces séquences de notes puissent être synchronisées à ce qui a été joué précédemment, enregistré précédemment, ou ce qui va être enregistré à partir de cette séquence. À l'époque, il faut le jouer à la main. Donc les premières séquences que je vais faire, je vais les jouer totalement à la main, en étant très influencé par quelqu'un que j'avais rencontré quand j'étais encore étudiant et où j'allais me faire un peu d'argent de poche au studio d'Hérouville, où j'avais été assistant des séances d'enregistrement de Terry Riley, où j'avais été fasciné par le fait que des enregistrements comme INSI, par exemple, que les gens qui connaissent le répertoire de Terry Riley connaissent bien.
En do,
voilà. Toutes les séquences qu'il faisait à l'orgue, c'était des séquences faites à la main. C'est-à-dire qu'en fait, très tôt, cette musique minimaliste qui, moi, m'a beaucoup influencé, c'est en fait l'idée d'imiter finalement, comme Philip Glass le fera plus tard, d'imiter en fait des répétitions qui pourraient être des répétitions imaginées par une machine, mais faites totalement à la main, si je puis dire. Les séquenceurs vont arriver dans la musique électronique à remplacer ce qu'on va jouer à la main de manière plus automatisée, ce qui a l'avantage de pouvoir aussi faire d'autres choses, de pouvoir aller plus loin, de pouvoir. Et donc, on va mettre au point avec Michel Guest ce premier séquenceur qui est tout à fait révolutionnaire à l'époque, qui fait 64 pas, c'est-à-dire on fait faire jusqu'à 64 notes, ce qui est déjà énorme pour l'époque, et de pouvoir justement les boucler, les enregistrer sur elles-mêmes avec un code qui est pas le MIDI, mais qui va être une sorte de code que Michel Guest a inventé, qui va permettre de synchroniser d'autres séquences qu'on pourra enregistrer plus tard. Bon, alors, c'était assez laborieux à l'époque, puisqu'il fallait à peu près une demi-journée pour arriver à synchroniser correctement deux séquences entre elles, ce qu'on fait maintenant sur un ordinateur en 3 secondes.
Je prends un exemple plus récent pour parler de la façon de fabriquer votre musique, Jean-Michel Jarre. Pour l'album Time Machine, c'était le premier volet de Electronica qui est paru en 2015. C'est votre 18e album studio. Vous avez voulu travailler avec des musiciens très différents qui viennent de la musique électronique, qui sont parfois certains des pionniers comme vous. Je pense à Edgar Froese de Tangerine Dream, qui est vraiment un des pionniers de la musique électronique en Allemagne, avec des jeunes gens comme le français Geza Feldstein, les anglais de Massive Attack, les français de R. Bref, à chaque fois, vous teniez à collaborer avec eux, mais dans leur studio ou dans un studio ensemble, et non pas comme on le fait souvent en s'envoyant des fichiers par ordinateur que l'on s'envoie. Qu'est-ce que vous avez appris en partageant ces solitudes de studio ?
Alors, d'abord, la musique électronique ou électroacoustique a ceci de spécifique, c'est qu'on est en fait tout seul, un peu comme un peintre ou un écrivain dans son atelier, où c'est un exercice solitaire. C'est-à-dire qu'on est entouré d'instruments, de séquenceurs, de sampleurs, et finalement, on est à la fois son chef d'orchestre, qui à la fois, à l'époque, au moment où je commence, est quelque chose de révolutionnaire, c'est-à-dire de devenir d'un seul coup son propre luthier, de pouvoir créer sa propre palette sonore. Il faut bien réaliser que avant Schaeffer et avant cette époque, la manière qu'on avait de composer, c'était de composer avec des timbres qui étaient mis à notre disposition par des luthiers qui avaient inventé la clarinette, le violon, la contrebasse, le cor, etc. Et c'était ça notre palette. Avec la musique électroacoustique électronique, d'un seul coup, on va pouvoir inventer nos propres timbres et donc devenir à la fois le luthier, le chef d'orchestre et le compositeur tout en même temps. Et donc du coup, ça, c'est forcément quelque chose qui est alors tout à fait vertigineux, extraordinaire, mais qui est un travail solitaire que vous faites en studio. Et j'avais envie de rompre avec cette solitude d'une certaine manière et d'aller me frotter avec des gens que j'admire, qui font partie directement ou indirectement de l'histoire de la musique électronique, toute génération et tout genre confondu, et justement pour mélanger nos ADN et voir ce que ça peut donner, et en même temps avec un enthousiasme de rencontrer des gens et de la curiosité de savoir comment finalement d'une cuisine à une autre, comment les cuisiniers approchent les mêmes ingrédients pour en faire quelque chose de différent. Et donc, ça a été une expérience, un voyage pour moi initiatique extraordinaire, une expérience qui a duré 5 ans à peu près. En plus, j'ai eu la chance et le privilège que tout le monde dise oui. Je me suis retrouvé avec 32 collaborations. Du coup, cet album qui devait être un album a été 2 albums, Electronica 1 et 2, et avec des rencontres formidables et pour la plupart des gens qui sont maintenant restés devenus des amis.
On en restera là pour aujourd'hui. Bonsoir Jean-Michel Jarre, à demain.
À demain.
À voix nue, réalisation Véronique Samouiloff, prise de son Élodie Royer, Yves Lehors, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.